Donc c'est la rentrée, ça vous aura pas échappé. Et la rentrée, c'est la rentrée pas que pour Divergence FM, c'est aussi la rentrée pour un nouveau voisin de Divergence FM. Car à Divergence FM, il y a une rue et de l'autre côté de la rue, pile en face, il y a une nouvelle librairie. Une librairie qui a fait sa rentrée le 1er septembre. Et vous allez découvrir les spécificités de cette librairie. Alors c'est assez extraordinaire parce que de la librairie, on a une vue imprenable sur Divergence FM, mais de Divergence FM, on a une vue imprenable sur la librairie. Alors, une librairie, c'est une libraire, et ce qui n'est pas si fréquent, une libraire très jeune.
Oui, j'ai que 24 ans et j'ai ce projet-là depuis ça fait 4 ans maintenant. Donc depuis un moment quand même, j'avais 20 ans quand j'ai voulu créer tout ça. Donc je suis assez jeune.
Alors, on va peut-être dire comment vous vous appelez pour
Oui.
que les clients, les futurs clients de la librairie sachent à qui ils s'adressent.
Mais je m'appelle Hélène Richard.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à cette, on va dire folie, un petit peu, cette folie d'ouvrir une librairie alors que des gens plus expérimentés, ils sont bien hésitants à ouvrir une librairie, hein.
Oui, je peux comprendre. Ça n'a pas été un parcours facile, franchement, je ne vais pas mentir. Mais en fait, bon, je ne vais pas revenir aux origines de pourquoi j'aime le manga, etc. Mais quand je suis rentrée en école de commerce, donc à l'EDHEC, pour un master en administration et en ressources humaines, j'ai côtoyé beaucoup d'entrepreneurs jeunes qui ouvraient des micro-entreprises et en fait j'ai trouvé ça formidable. Donc j'ai commencé à chercher ma propre idée de concept pour finalement me faire incuber à Lille 2 ans après. Avec un début d'idée de librairie, c'est eux qui m'ont aiguillée vers pourquoi une librairie, comment une librairie, et toutes les petites choses à côté. Par exemple, le fait de savoir qu'une librairie, c'est pas forcément rentable sans un petit à côté. Donc souvent les papeteries qu'on voit souvent, moi c'est un café, enfin un petit salon de thé. Et du coup, je suis partie au Canada en 2019, enfin fin 2019, début 2020. J'ai vécu le Covid, mais à la base, je voulais m'installer là-bas pour ouvrir ma librairie. Mais bon, avec tout ce qui s'est passé, c'était un peu difficile de lancer le projet à la banque, etc. Et du coup, j'ai un peu laissé de côté le projet en me disant qu'il fallait que je trouve un travail et que ça se passe bien. Je suis rentrée en France parce que être loin de ma famille, être loin de la France, c'était quand même un peu difficile, même si le Canada, c'est formidable. J'avais envie de faire autre chose de ma vie et j'ai relancé le projet librairie en janvier, là, ce janvier-là. Mon stage en librairie au Renard Doré à Paris, qui ont été formidables pour m'apprendre plein plein de choses et me confirmer en fait que c'était ça que je voulais faire. C'était une librairie spécialisée dans la culture japonaise. Et me voilà aujourd'hui, en septembre 2022. Et j'espère que c'est pour longtemps.
On va peut-être quand même revenir un peu sur cette passion pour la culture japonaise
Oui.
et pour le manga. Alors, beaucoup de jeunes qui se passionnent pour les mangas, ça, on le constate. Mais alors, pourquoi, comment, et puis, c'est pas que les mangas. Alors, je ne sais pas si ça a commencé par les mangas ou par le Japon, mais c'est les mangas, là, dans les échanges qu'on a eus, ne sont qu'un aspect de la culture japonaise.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, moi, j'ai commencé par le manga. Comme je pense beaucoup de gens qui se passionnent de la culture japonaise, enfin, les gens de mon âge en tout cas, moi, j'ai commencé à la télé, sur la 11 avec LGK à l'époque qui diffusait Naruto, Nicky Larson, tous ces trucs-là. J'ai connu aussi Ken le Survivant. Avec des doublages incroyablement drôles qui essayaient de rendre le manga accessible aux enfants alors que c'était quelque chose de très violent.
Oui, vous évoquiez Nicky Larson. On m'a dit que les voix originales n'ont absolument rien à voir avec
Ah,
le
ça
français, que c'est
n'a.
quelque chose de sombre dans la version originale et c'est
Oui.
devenu quelque chose de quasi comique dans la version française.
Voilà, c'est ça. Franchement, je conseille à tout le monde de regarder la version française parce que les acteurs de doublage ont été incroyables. C'est très drôle. Et puis ça, en fait, aujourd'hui, ça a ce côté-là nostalgique où on rigole bien quand on connaît la version japonaise où vraiment, il y a des histoires dramatiques qui. On raconte pas ça à un enfant. Et moi, j'ai regardé ça enfant et j'ai jamais compris le problème. Notamment, par exemple, Nicky Larson, il va dans des restaurants végétariens en français Alors que en fait au Japon c'est des restaurants de maid, donc en fait des femmes très peu habillées qui servent des gens. Voilà, donc rien à voir avec un restaurant végétarien comme dans la version française. c'est très 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 drôle.
C'est plus de la traduction là, c'est une adaptation très libre à
oui,
travers mais le doublage.
C'est ça, ils se sont complètement appropriés le doublage parce que justement c'était très violent. Je sais que Brigitte Lecordier en parle très bien sur sa chaîne YouTube, qui est donc la personne qui double Sangoku dans DBZ, et toute l'histoire du doublage en France au niveau du Japon, c'est très très intéressant, et aujourd'hui en fait on fait partie de ces pays qui s'en sortent le mieux pour présenter du doublage français au Japon, enfin sur les animés japonais.
Alors vous me disiez aussi que la situation de la France par rapport à la publication, la diffusion des mangas est un peu privilégiée, voire assez un peu unique au monde.
Oui, on a deux pays qui, en fait, on dirait pas comme ça parce que c'est deux pays qui sont très très différents au niveau de la culture, mais en fait, le manga, c'est quelque chose qui nous a beaucoup rapprochés. On fait partie de ces pays qui avons les sorties très rapidement, notamment bah là, je pense au film Red de One Piece qui vient de sortir. Et qui en fait, nous, on a eu une traduction française très rapidement, notamment avec Oshi qui chante les chansons du film. C'est juste exceptionnel parce que dans certains pays, ils n'ont toujours pas cette traduction-là, ils vont juste aller le voir en version originale en japonais. Et nous, on a eu cette traduction-là très rapidement. Et c'est très rare et c'est une chance immense parce que même si les grands fans d'animés japonais, ils vont le regarder en VO, ce que je peux comprendre, les enfants regarderont forcément en version française et auront cette chance-là d'avoir le film One Piece en français. Alors que moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, on allait sur des sites très sombres où on n'avait pas le droit d'aller pour regarder ces films-là sous-titrés en français, traduits par des gens qui savaient à peu près parler japonais, où on avait des traductions floues. Et là, on a un super travail de traducteur. Et même au niveau des livres japonais, ils sortent de plus... Enfin, des mangas, pardon, livres japonais, c'est pas correct. On les a de plus en plus rapidement. Les éditeurs font un travail formidable. Enfin, c'est merveilleux. Et on a même des livres... Enfin, des mangas collectors qui sortent de plus en plus vite en France. C'est fou, quoi. Notre travail avec le Japon, il est fou. Et même, on a des mangaka français qui vont bientôt, ou qui ont déjà, je ne me représente pas encore avec Radiant si c'est déjà sorti au Japon, mais il y a une collaboration qui se fait de plus en plus et je pense que ça va aller en augmentant parce que les Japonais, en règle générale, aiment beaucoup les Français. C'est un pays qui leur parle bien.
D'accord. Alors, on a dit que c'est pas que le manga, c'est toute la culture japonaise. Qu'est-ce qui vous séduit à ce point-là dans cette culture, alors on va dire cette culture, mais il y en a sans doute, il faudra sans doute le mettre au pluriel.
oui, c'est tellement de choses. Moi, je pense que ce qui me fascine vraiment énormément, c'est ce côté, on va dire, bipolaire de la culture, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois ce côté extrêmement strict où dans la rue, les couples ne s'embrassent pas, on se cache, il faut être respectueux. Enfin, de toute façon, on l'avait vu, je crois que c'était à la Coupe du Monde quand les Japonais étaient dans les vestiaires et qu'ils ont tout rangé, ils ont rangé partout, c'était nickel quand ils sont partis. Et puis bon, bah, les autres joueurs en général ne rangent pas et les supporters ne rangent pas et laissent tout par terre. Les Japonais rangent absolument tout. D'ailleurs, à l'école là-bas, c'est une règle, c'est les élèves qui nettoient leur salle de classe. Et il y a ce côté-là, et il y a le côté complètement déjanté des Japonais, qui, je pense aussi, est exacerbé par le fait qu'ils ont vraiment une culture très stricte dans les apparences. Mais quand on regarde le soir, moi je sais que j'ai des amis qui sont allés au Japon, j'ai pas eu cette chance, mais le soir, il y a beaucoup de Japonais qui se retrouvent bourrés dans les rues. ils ont vraiment ce truc-là où ils sont désinhibés sur plein de choses. Leurs émissions de télé, elles sont complètement folles et on pourrait vraiment pas voir ça en France. Et vraiment, à côté de ça, ils ont un respect fou. Et moi, je trouve que ces deux côtés-là, un peu de leur culture, et c'est très intéressant. Et en plus, à côté de ça, comme la France, ils ont une culture très riche. Que ce soit au niveau de la littérature, parce qu'il y a les premiers mangas, mais il y a les premiers écrits, il y a tout ce qui est costumes japonais, les geishas, etc. Il y a vraiment une histoire qui est folle de cette île, qui était du coup pendant longtemps vraiment à part du monde, comme beaucoup d'îles, qui communiquaient pas forcément. Et en fait, ils se sont créés cette culture-là, même au travers des guerres qu'ils ont pu avoir. Et l'Asie, en général, ça a une culture très très riche. Et le Japon, tout particulièrement au niveau de... Ben, je vais dire de la culture en elle-même, tout ce qu'on pourrait appeler l'art, la littérature, etc. Ils ont vraiment développé ça de leur côté, et notamment ben, le nom de mon magasin qui est Bunka, c'est une période de l'ère Edo où justement l'empereur il a voulu développer et échanger avec les autres pays de plus en plus en 1800, et c'est pour ça qu'il a nommé cette période-là Bunka.